Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Monsieur Page, officiellement bonjour.
Salut Mathieu.
Pas de nouveau sur le développement de l'enquête sur les souffleuses puis les poussettes, non?
Non. D'ailleurs, je viens d'être mis au courant de ces nouvelles extraordinaires.
L'étrange affaire Zougone.
Oui, écoute, on est toujours dans ce mois de février. Alors là, je te fais faire un bond en 1925.
Oui.
On est en février 1925. On se trouve dans un petit village à Talpa, en Roumanie. Et là, il y a une fillette de 12 ans qui s'appelle Eleonora Zougone. Elle va trouver des pièces de monnaie le long de la route. Elle est en vacances chez sa grand-mère. Et elle va trouver des pièces de monnaie dans le gravier, sur le bord de la route. Elle les prend. Et comme tout enfant de cet âge-là, elle se précipite au magasin général, va dépenser ses sous pour acheter des bonbons. Et elle va les manger avant d'être de retour chez la grand-mère parce que les voisins, c'est des cousins et cousines, puis elle ne veut pas partager. Alors, elle mange tous les bonbons avant de rentrer à la maison. Et lorsqu'elle confie cette histoire-là à sa grand-mère lui dit, très superstitieuse, on l'a dit un peu sorcière, elle lui dit, c'est Dracul, hein, une sorte de sorcier, de démon, de diable, qui a laissé cet argent-là sur le bord de la route pour t'attirer, pour t'appâter. Et finalement, t'as dépensé...
Dracul comme Dracula.
Comme Dracula, parce qu'en Roumanie, Dracul veut dire le mot dragon. Il est synonyme de dragon. Il veut dire également le diable. Donc, il lui dit, c'est Dracul qui t'a tendu la main et tu t'es laissé piéger. Alors, la fillette, et curieusement, à partir de là, d'étranges manifestations vont commencer à se produire autour de la jeune Eleonora Zougone. Elle reçoit des gifles au visage, elle est mordue, elle est poussée. Des pierres sont lancées contre la maison de la grand-mère, à un point tel que finalement, la grand-mère ne veut plus prendre soin de la fillette et la retourne chez son père. La fillette retourne donc à la maison familiale. Son père s'est remarié parce que la mère est morte quelques années plus tôt. Et là, à nouveau, des pierres sont lancées contre la maison, sans compter, encore une fois, des gifles, des coups, des... Eleonora qui est troublée, tourmentée par cet esprit invisible. Et toujours selon la légende, on aurait fait venir un prêtre à la maison de M. Zougone, et parce que là, des pierres étaient lancées contre la maison, ouais. Et ces pierres étaient rondes, un peu comme des galets, et ils étaient mouillés. Il faut savoir que juste au côté de la maison des Zougone, il y avait un petit ruisseau. Alors le prêtre conclut que les pierres viennent du ruisseau et sont lancées contre la maison. Et elles font éclater les carreaux, les vitres, etc. Donc le prêtre fait une marque sur une des pierres et la relance dans le ruisseau en disant « Retourne chez toi, démon, enfer ». Quelques minutes après, une pierre à nouveau fracasse. Tu la vois venir, fracasse l'une des vitres de la maison.
Ouais, et lorsque avec la marque, toujours.
Voilà celle avec la marque de la croix. Quoi qu'il en soit, cette histoire de jeune fille giflée, agressée par cette entité invisible, va déborder les frontières de la Roumanie. Elle va attirer en Europe l'attention de quelques chercheurs européens qui s'intéressent à ces phénomènes de fantômes, de poltergeist. Et éventuellement, la jeune Eleonora Zougone sera prise en charge par des gens intéressés par ces sujets-là. On va même l'amener à Londres, où elle va être dans un laboratoire soumise à une observation. Et on va être témoin en direct, les gens qui sont là vont être témoins en direct des agressions portées contre la jeune Eleonora Zougone. Okay. Donc, elle reçoit des gifles, elle est poussée, elle a des marques de morsures. C'est quand même surprenant. Alors là, évidemment, tu pourrais dire « Oui, mais peut-être que c'est la preuve ultime qu'on est en présence d'un phénomène paranormal. » Il y a toujours un talon d'Achille. Et dans le talon d'Achille, ici, c'est quand même curieux. Jamais la petite Eleonora Zougone est prise à tricher. Mais en revanche, les marques de morsures qui apparaissent sur son corps sont toujours à des endroits où elle peut se mordre. La marque de la morsure est toujours correspond toujours à la marque de sa propre mâchoire, de sa propre bouche, de ses propres dents. Comme si Eleonora elle-même se mordait, mais elle n'est jamais prise à tricher. Une analyse de la salive va démontrer qu'il s'agit bel et bien de la salive d'Eleonora. Donc, il y a toujours un doute qui va persister. Quoi qu'il en soit, elle a 12 ans. Peut-être, malgré qu'il y a comme une sorte de controverse, il y a même un petit film qui va être tourné où on la voit être agressée. Éventuellement, elle a 12 ans au moment où les manifestations débutent et à l'âge de 14 ans, elle va avoir ses premières règles menstruelles. Et à partir de là, les phénomènes vont s'arrêter. Elle va éventuellement retourner en Roumanie et elle va vivre jusqu'en 1998. Elle va avoir un métier de coiffeuse. Elle ne sera jamais à nouveau troublée par ces manifestations. Et il n'y aura jamais aucune autre, ou à tout le moins aucun aveu de sa part que les manifestations qui se sont produites à ce moment-là étaient un trucage.
dans un instant. La suite, on se parle de la maison la plus hantée d'Angleterre.
Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
11h18 avec Christian Page, en conférence d'ailleurs le 10 mars prochain, conférence qui portera sur les enlèvements extraterrestres.
Ou extraterrestres. Donc c'est ça, écoute, c'est un phénomène qui est devenu un incontournable socialement. Donc depuis les années 60, ce phénomène est commencé presque de manière unique avec une ou deux histoires. Et puis aujourd'hui, c'est une référence, disons presque culturelle. Hein, on pense aux Simpsons, qu'on parle à oui. South Park. C'est les enlèvements extraterrestres. On retrouve ça dans les publicités un peu partout. Donc, ce phénomène-là, est-ce qu'on est réellement en présence d'un phénomène bien réel? Est-ce qu'on est en présence d'une nouvelle pathologie psychiatrique qu'on n'a pas encore identifiée ou des gens croient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres? Mais il y a plus que ça. Je vais dire aux gens, il y a toutes sortes de trucs. Tu sais que ce phénomène-là, il est un incontournable dans le domaine des ovnis. Les gens sont passionnés par ça. Il y a toute une communauté de gens qui font de la recherche sur les soi-disant enlèvements extraterrestres. Je vais raconter ensemble des petites anecdotes de coulisses dont j'ai été le témoin et je peux t'assurer que tu verras jamais ça dans les livres sur les amateurs d'OVNI.
Mais Christian, à quel endroit puis-je me procurer mes billets?
Sur le www.christianpage.ca.
Et j'imagine que ça doit valoir 500 $ une conférence comme celle-ci.
Absolument pas. 25 $
Ma foi, c'est une aubaine.
C'est une aubaine. Alors, c'est un rendez-vous le 10 mars prochain. Les enlèvements extraterrestres, mythe ou réalité?
Et les gens qui sont dans la région de Trois-Rivières qui nous écoutent présentement ou ailleurs également, tu es à Québec.
Oui, je suis à Québec la semaine prochaine. Le week-end prochain, samedi prochain, le 24, où je présenterai ma conférence sur les mythes, mythes et légendes de l'histoire.
OK.
Donc,
christianpage.ca.
Ouais, toutes les informations sont là.
Parle-moi de la maison la plus hantée d'Angleterre.
Ben oui, écoute, on va faire vite là-dessus parce que je sais que le temps file, mais imagine-toi, nous sommes le 27 février 1939 et soudain, un incendie se déclare dans le presbytère de Borley en Angleterre. Le feu se répand rapidement, la maison se transforme en brasier et en fumée disparaît ainsi ce que d'aucuns qualifiaient de la maison la plus hantée d'Angleterre. Écoute, j'y suis allé aujourd'hui à ce qui reste parce que bon, faut savoir que Borley est un petit village à peu près à 1h30 de route de Londres. Hein, c'est au nord-est de Londres, c'est ça, nord-est de Londres, dans le Sussex. Et t'arrives là, il y a une dizaine de maisons puis une église médiévale construite au 12e siècle. Et c'est juste sur la rue en face de cette église-là qu'a été construit en 1863 ce qui est devenu le presbytère de Borley. Et c'était un édifice qui était affreux. On dirait que l'architecte dormait un peu quand il a construit ça. Une maison vraiment très austère, grande, 23 pièces, mais très austère. Et déjà au moment où on construit la maison, il y a toutes sortes de légendes locales qui circulent. On y aurait vu le fantôme d'une nonne qui aurait été assassinée jadis sur ces terres-là. On y voit parfois dans la rue une espèce de cocher fantôme traverser les terres du presbytère. Quoi qu'il en soit, le bâtiment est construit en 1863 et jusqu'en 1939, au moment où il sera détruit, il y aura plusieurs locataires, plusieurs prêtres et révérends, en fait ce sont des révérends, qui vont occuper le presbytère pour assurer la charge religieuse de la communauté. Tous seront témoins de manifestations étranges. On compte le nombre de manifestations rapportées au presbytère de Borley, non pas par centaines, mais par milliers. Et en 1939, disparaît le presbytère. L'un des enquêteurs sur le presbytère, un type qui s'appelait Harry Price, qui est peut-être le premier véritable chasseur de fantômes de l'histoire, a écrit un ouvrage qui est publié en 1940 qui s'appelle « The Most Haunted House in England », la maison la plus hantée d'Angleterre. Évidemment, l'histoire de ce presbytère reste très controversée parce que les gens qui étaient sur place ont-ils tous été témoins de manifestations surnaturelles? Ont-ils été victimes de leur sens? Et il est possible que certains locataires en aient donné plus que la galerie en demandait à cause justement des légendes qui entouraient le presbytère. Je dois t'avouer que les gens n'aiment pas trop les histoires de fantômes à Borley. Moi, j'y suis allé, comme je t'ai dit, quelques dizaines de maisons. Et quand tu te promènes aux alentours, on détecte vite que tu es là pour le mystère de Borley. Et là, les gens nous disent « Va-t'en chez vous, il n'y a pas de fantômes ici! » Les je ne crois pas roule. Que ce soit l'hospitalité britannique.
Parle-moi cette fois, puis dans les éphémérides, on se rapproche dans le temps, mais on se rapproche également de chez nous. C'est dans l'Est ontarien, c'est à Carp.
À Carp, et moi-même, j'ai été au centre de cette histoire-là. Ça me ramène le 12 février, pour moi, là, le 12 février 1990 est marqué par l'affaire de Carp.
Mais qu'est-ce que c'est?
Ce matin-là, comme quelques ufologues à travers le monde, je fouille dans mon courrier et je trouve une enveloppe anonyme. Elle m'est adressée, je l'ouvre. Elle contient une feuille dactylographiée et des photographies photocopiées. Et l'auteur, qui ne se présente pas, il est anonyme, il dit avoir été témoin d'un événement mystérieux qui s'est passé quelques semaines plus tôt, en fait le 4 novembre. Le 4 novembre! 1989.
C'est ça le phénomène étrange, c'était Jean Chrétien qui était là.
Le 4 novembre!
On dirait lui, il avait possédé.
Donc, il dit que le 4 novembre 89, il a été le témoin privilégié de l'atterrissage d'une soucoupe volante dans les marécages à l'est de Carp. En fait, c'est à Marion Corner. Et là, il a vu des hélicoptères de l'armée canadienne et américaine agir de concert. Ils auraient envoyé un gaz spécial, le Vexon, qui aurait paralysé les occupants de l'OVNI. Et là, les militaires seraient rentrés à bord et auraient trouvé des cadavres de créatures reptiliennes qui auraient été ramenés dans les installations souterraines à Canada, des installations du gouvernement canadien.
Le bunker,
effectivement.
Le Diefenbunker.
Là, c'est ça, bon, construit sous le régime de Diefenbaker, où j'ai tourné d'ailleurs une émission sur les fantômes à un moment donné. Donc, c'est ce qu'on nous raconte dans cette histoire-là. Et je dois t'avouer, je t'ai amené ici, tu vas voir les documents du Saint Graal. Voici la fameuse lettre dactylographiée envoyée par le mystérieux auteur.
Et qu'est-ce qu'il dit là-dedans?
Donc, il raconte cette histoire-là. Et puis ensuite, ça délire un peu sur l'ésotérisme, une sorte de complot chinois. Et bon. Bref, j'aurais pu prendre ces documents-là et les jeter à la poubelle, ce que je n'ai pas fait. Et voilà qu'un an plus tard, et là, on découvre sur les fils que plusieurs ufologues aux États-Unis et au Canada ont reçu le même envoi. Et alors, bon, je garde ces documents-là de côté, et voilà qu'un an plus tard, le même mystérieux auteur me renvoie une lettre. Et là, cette fois, elle est accompagnée d'un document qui est, tu vois, en partie
caviardé.
Et là, c'est supposé être un document officiel. Et avec ça, attention, deux photographies fabuleuses, l'une d'un extraterrestre.
Il y en a une qui est floue. Hein. Ouais.
Tu m'étonnes.
Tu sais, prendre une photo de ta main sur la lentille.
Oui, voilà. Et donc, on a une sorte de photo d'un extraterrestre. Et là, cette fois-là, il y a une vidéocassette qui accompagne cette histoire-là. Et dans un deuxième temps, donc cet auteur, qui là, pour la première fois, se définit lui-même, il dit s'appeler Guardian. Il fait partie d'une communauté, les gardiens du Saint Graal. Et là, il dit qu'un an après ce premier événement, il dit « novembre, il y aurait eu un autre ovni qui se serait posé près de Carp. Et là, cette fois, les militaires auraient attaqué, on aurait récupéré encore une fois des extraterrestres. Et là, il dit avoir été lui-même le témoin de cette apparition. Et il a filmé l'ovni. Et c'est ce que contient la fameuse vidéocassette en VHS que je mets dans mon lecteur. Et on ne voit qu'une sorte de lumière qui clignote au milieu d'un champ avec des feux de signalisation. Là, tu vois des flares, là, des feux d'urgence là, qu'on veut utiliser lorsqu'on a un accident sur le bord de la route.
Une balise.
Tout ça, là, c'est d'un ridicule absolu. Mais crois-le ou non, l'affaire va rebondir aux États-Unis parce qu'il y a des gens qui vont prendre ça au sérieux. On va analyser l'image. Certains vont dire « ça nous semble très sérieux ». La série « Unsolved Mysteries » vont venir...
Dossier mystère. À quatre saisons.
Qui était présenté à quatre saisons. Et aux États-Unis, la version américaine était animée par Robert Stack. Mm-hmm. Tu te rappelleras l'incorruptible Robert Stack qui avait joué dans la fameuse série américaine sur Elliot Ness.
Et la voix de Jean Coutu.
Et la voix de Jean Coutu ici. Et là, ça va rebondir. On va faire un reportage dans la série Unsolved Mysteries. Et on va même la GRC sera éventuellement saisie de cette affaire-là. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il est interdit de reproduire des documents que l'on essaie de nous faire croire être des documents du gouvernement. Okay. Et évidemment, dans cette histoire-là, l'auteur des documents dit que des hélicoptères de l'armée auraient survolé une zone habitée en dessous du 5 500 pieds légal selon la loi de du trafic aérien. Alors, la GRC, crois-le ou non, j'ai ici le dossier de la GRC.
Ben voyons.
Écoute,
donc,
c'est énorme. Le travail qu'ils ont fait autour de ça, tout ça à partir de l'aide dactylographie qui contient rien de plus que les délires ésotériques d'un individu qu'éventuellement la GRC va identifier.
Qui est-il?
Donc, dans ces documents...
Moi, il y a une phrase qui m'a frappé là, dans tout ce qui était caviardé. On parle ici de pulsions sexuelles insatiables.
Oui, ça, c'est les extraterrestres qui ont ça.
Et leurs femmes préfèrent les partenaires humains.
Et oui, voilà.
Pour ceux qui t'ont appelé.
Je comprends pourquoi on m'a envoyé ce courrier. Donc, la GRC va enquêter là-dessus. Écoute, et moi-même, je vais parler avec les agents de la GRC. Ils vont m'appeler, me demander, oui, vous avez reçu les documents. Je te remets les documents que j'ai reçus. Écoute, c'est une énorme affaire. Finalement, qui se solde parce que la GRC, pour elle, il est clair que les images, la fameuse vidéo, ne montrent rien de plus qu'un hélicoptère, un Sikorsky 64, utilisé par l'armée canadienne, que visiblement quelqu'un filmait avec une petite caméra dans un champ, alors qu'il s'échappait sans aucun... Oh, absolument, c'était des manœuvres nocturnes. Ils vont même identifier l'auteur. Il y a dans cette région-là un individu qui est bien connu pour s'intéresser aux ovnis, une sorte de Richard Glenn local. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est quelles ont été ses motivations pour faire ça. Alors là, évidemment, les amateurs d'OVNI essaient d'imaginer un complot, quelque chose d'énorme. Non! Moi, pour être dans ce milieu-là depuis 40 ans, ne cherchez pas de scénario sordide. Des fois, les gens font des canulars uniquement pour s'amuser et parfois, ils en perdent le contrôle et c'est exactement ce que je crois ici. Je te donnerai pas le nom de l'auteur.
L'as-tu déjà rencontré?
Oui, j'ai rencontré l'auteur. Je vais l'appeler, disons, appelons-le Johnny Dubois. Et c'est un type qui s'intéresse aux extraterrestres. Il a
et
même
lui,
fait
il a
partie...
ri de voir ça ou il est
non,
plus
lui, il est très convaincu de toutes ces histoires d'extraterrestres. Il vit dans sa bulle. Tu vois le genre?
Ouais.
Un gars qui vit dans sa bulle et qui était membre d'une association qui s'appelle IAM, une sorte de groupement, association ésotérique et mystique.
Monsieur Page, fascinant tout ça.
Merci beaucoup.
On va te laisser à tes déesses extraterrestres.
Absolument.
Je sais qu'il y a plusieurs rendez-vous.
Bien sûr, quelques vénusiennes.
On va acheter tes billets pour
quelques vénusiennes m'attendent. Le 4 novembre!
Le 4 novembre, au
voilà. Merci beaucoup. Pierre Rivelon nous attend dans un instant.